Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Patrick Artus, directeur de la recherche économique de Natixis, qui a coécrit pour en finir avec le déclin les priorités économiques et sociales chez Odile Jacob, également membre du Cercle des économistes. On se retrouvera, Patrick, à Aix bientôt. Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques, qui a coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flammarion Champ Actuel. Sylvain Aurébi, le président des Técousmi. Ibrahim m'écrit, le retour à 3% de déficit a-t-il vraiment un sens de nos jours au regard des incertitudes multiples auxquelles nos économies font face. Elle est pas mal, cette question.
Oui, non, mais c'est...
Mais je pense qu'on n'y reviendra pas, d'ailleurs.
Oui, d'accord. Non, mais c'est une question, effectivement, qu'on se pose. Vous voyez, plus que 3%, l'idée, c'est quand même qu'on arrive petit à petit à avoir des finances publiques qui soient gérées, en fait, globalement. Et donc, il faut mettre une trajectoire. Donc, on se dit 3% de déficit, c'est un peu la borne, parce que, globalement, les investissements publics, alors même si la définition est un peu lâche, mais en gros, globalement, chaque année, on investit à peu près 3% d'investissements publics, même c'est au-delà, c'est 3,5%. Donc, qu'on finance ça par du déficit, pourquoi pas. Et puis, c'était un peu 3%.
Oui, mais si on finançait des investissements par du déficit, ce serait bien.
Oui, mais il y a 3,5% de points de PIB d'investissement public. Donc, on pouvait dire...
On pourrait dire que, d'accord.
C'est lorsqu'on va réduire de 5 à 3, qu'est-ce que l'on va réduire? Si on réduit l'investissement public, ça sera peut-être pas une bonne idée. Et puis après, c'était 3%, c'était à peu près le déficit qui permettait de stabiliser la dette publique à un certain niveau compte tenu de l'inflation. Mais ça, c'était à l'époque où on voulait stabiliser à 60 points de dette et qu'on avait à peu près 5 ou 6 de croissance nominale. Bon. Mais tout ça, je pense que ce qui est en jeu, c'est est-ce qu'on est crédible dans notre réduction? Donc, quand on fait des annonces et qu'on dit voilà, on va être à 3% de déficit, est-ce qu'on est crédible? Quand on entend Patrick à la première partie, il dit ça va être très compliqué. Donc, globalement, si on veut être encore crédible vis-à-vis de nos partenaires, il va falloir expliquer comment on y arrive et pas simplement parce qu'on a beaucoup de croissance économique qui tombe du ciel.
Enfin, expliquer, oui, effectivement. Parce que je sais pas, par exemple, l'interview de Bruno Le Maire et de Gabriel Attal, comment elle est perçue quand elle est lue par aujourd'hui un décideur allemand ou un décideur autrichien ou un néerlandais. Il y a quelqu'un qui vous répond là, il s'appelle Trotanois. Non, monsieur Aurébi, les céréales vont encore augmenter en 2023 parce que les récoltes sont faibles.
Oui, on en reparlera en 2023. Notez son nom.
Trotanois, il écoute souvent Trotanois.
Parce que c'est les matières premières, ça fait 40 ans que je connais ça.
Oui, je sais que vous êtes
Les marchés de matières premières, si on pouvait les prévoir aussi facilement un an, on serait tous riches. Alors, il y a toujours beaucoup de surprises. D'abord parce que la nature est capricieuse et parce qu'ensuite, la consommation évolue très vite, les changements de consommation évolue très vite. Donc on verra ce que font les céréales et les matières premières agricoles en général dans l'année qui vient.
Je reviendrai dans un instant sur des mesures un peu précises, les 18 centimes par litre, la proposition de loi du PS. Patrick Artus, est-ce que ça a du sens de parler de code d'alerte des finances publiques? De parler de limite du tolérable? Pendant de nombreuses années, et moi le premier qui ne suis pas économiste mais journaliste, il y avait des études qui me disaient qu'à 90% de dette, à 91, c'était la fin Armageddon. Puis je me suis dit, c'est ça, il y a des experts qui l'ont déterminé, puis on s'est rendu compte que c'était bullshit. Alors il n'y a pas en fait de limite du tolérable. Regardez les Japonais, ils n'ont pas de limite du tolérable.
Alors on est à 90 en réalité. Hein,
parce 90 que de quoi?
De taux de dette publique.
Ah oui, parce que vous mettez la dette Covid.
Il y en a 25 qui sont à la Banque de France et qui n'existent plus, qui ont été détruits en réalité.
Non.
Si, de facto, ils ont été détruits. Et ils ne coûtent rien, ils ne sont jamais remboursés,
ils ont été
détruits. Donc on a 90%, on est à 90 en réalité.
Il ne faut pas dire ça parce qu'il y a des gens qui le pensent.
Oui,
ils ont été neutralisés.
Moi, je le pense.
Oui,
je le pense.
Non, mais le mot détruit, on a l'impression
que... Non, mais un truc qui est gratuit et jamais remboursé, si vous voulez, on peut lui garder une existence légale, mais enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Quoi.
Donc, dans la manière, dans les mots à utiliser, c'est comme si vous me disiez, on les a annulés. Non,
nous avons quelques camarades économistes qui ont fait une fixation absolue sur l'idée qu'il fallait légalement les annuler.
Voilà.
À nouveau, un truc gratuit. Non remboursable.
Une cagnotte, quoi.
Voilà, on ne va pas s'embêter à l'annuler. Quoi.
J'ai invité des économistes qui défendaient l'annulation officielle avec communiqué de presse.
Il vient n'importe qui sur ce plateau. Et donc.
aujourd'hui.
voilà. Donc, sérieusement, il y a une question très intéressante, mais pour répondre à votre question, je voudrais dire un mot du Japon. Parce que le Japon, c'est le contre-exemple absolu de tout ce que nous venons de dire ici. Le Japon a une dette publique qui est, alors suivant la mesure, entre 250 et 260% du PIB. Ils viennent de décider... avec
Xavier Rago nous disait, Maastrichtien, ce serait 180.
Oui, mais enfin, ils sont à 260.
Il y en a beaucoup.
Ils viennent de décider d'un grand plan de relance par les dépenses publiques et les infrastructures publiques qui fait 4 points de PIB en plus du déficit qu'ils avaient. Donc, ils vont sans doute avoir 8 points de PIB de déficit public l'année prochaine. Ils ont maintenu le contrôle des taux d'intérêt à long terme. terme. Alors techniquement, c'est à moins de 25 points de base, mais enfin disons à zéro pour faire simple. Et donc c'est un complètement autre modèle économique où la politique monétaire ne s'intéresse absolument plus à l'inflation. De temps en temps, l'inflation au Japon, en ce moment, elle est presque à 3, elle a déjà été à 4, elle retombe à 0, elle remonte. Ils s'en foutent complètement. Ils maintiennent les taux d'intérêt à long terme à 0. C'est ça le... Et donc, en fait, la Banque du Japon a comme objectif de permettre à l'État japonais d'avoir n'importe quelle dette publique. Y compris
de 100%, on a bien compris.
Et 300% du PIB dans 3 ou 4 ans. Alors, on pourrait faire ça. On pourrait dire, nous inversons entièrement le fonctionnement de la politique économique. La politique monétaire, ça n'a plus aucun lien avec l'inflation. L'inflation, elle est ce qu'elle veut être. Et puis, peut-être, il faut indexer les salaires. Enfin, au Japon, ils ne sont pas du tout indexés. Hein, mais, et la politique monétaire sert uniquement à donner les mains totalement libres à l'État.
Génial.
Alors, ça s'appelle, d'un côté, l'économie de guerre. Hein, on a besoin de faire d'énormes dépenses de défense. Ça s'appelle la transition énergétique. On a besoin d'investir beaucoup plus pour faire la transition avec des investissements dont souvent les rentabilités
sont faibles. Qu'est-ce qu'on attend,
Patrick Artus ? Et ben, et voilà. Donc la question centrale après, c'est qu'est-ce qui va mal au Japon et qui nous empêche de passer à ce modèle-là, qui nous permettrait de faire ce qu'on veut avec le budget.
Qu'est-ce qui va mal chez nous, vous voulez dire ?
Non, au Japon. Parce que oui. Si on dit on veut pas faire ça, on veut remettre des règles budgétaires européennes, on veut ramener le déficit à 3%, on veut que l'inflation soit de 2%, quitte à mettre en récession l'économie européenne, ça veut dire qu'on pense que le modèle japonais est épouvantable, quoi. Je veux dire, sinon, remettons les taux à zéro et redonnons un carnet de chèques à Bruno Le Maire. Hein. Donc voilà. Donc il faut identifier ce qui va mal au Japon. Ce qui va mal au Japon, c'est que les taux d'intérêt réels, quand il y a des poussée d'inflation devient extrêmement négatif. Et donc ça désorganise quand même pas mal une économie, mais ça l'a pas tellement désorganisé. Surtout, ce qui va mal au Japon, c'est qu'on ne contrôle plus du tout le taux de change. On voit aujourd'hui, le yen s'effondre parce qu'ils ont des taux à zéro quand les autres les montent. Donc il faut accepter d'énormes mouvements du taux de change. Ce qui, dans une économie comme le Japon, qui est assez fermée, n'est pas très grave. En France, par exemple, ou en Europe, qui est une économie très très ouverte, si on avait d'énormes mouvements du taux de change, ça serait quand même extrêmement déstabilisant.
Ah ben on a eu quand même des gros mouvements.
Oui, mais enfin, par rapport au Japon,
mais par rapport au yen, c'est pas pareil. Si on avait un effondrement de l'euro, je peux vous assurer que
l'inflation... Le yen, il fait des mouvements à 50%. Voilà. Mais en gros, posons-nous quand même collectivement cette question. Je veux dire, quelle est la barrière qui fait qu'on va se payer une récession l'année prochaine pour ramener l'inflation à 2, qu'on va ensuite avoir une économie faible pour ramener les déficits publics à 3, qu'on va avoir du mal à financer la transition énergétique parce qu'il faut beaucoup d'investissements et que les taux d'intérêt remontent. Quelle est la barrière qui nous empêche de prendre le modèle japonais ? Qu'est-ce qui serait catastrophique dans le modèle japonais si on l'appliquait à l'Europe ?
Ben, je pense que ce serait... Enfin, on aurait une disparition de l'euro.
L'euro sera à 80 centimes vis-à-vis du dollar. Voilà. Mais est-ce que... Voilà. Mais faisons l'analyse coût-avantage même. Regardons le Japon.
Mais vous dites ça, Patrick Artus, avec...
Moi, je dis ça très sérieusement.
Non, mais justement, mais vous dites ça avec une forme de nostalgie qu'on ne teste pas cette solution japonaise.
Si les Japonais adoptaient la politique monétaire de la Réserve fédérale, l'État japonais serait en cessation de paiement très, très vite. Hein. Quand vous avez 260% de dette publique...
Vous me donnez l'impression d'être un ambassadeur de la...
Non, je dis simplement, ayons un débat serein entre économistes, etc., sur qu'est-ce qui nous empêche de dire que finalement la politique monétaire c'est un suppôt de la politique budgétaire expansionniste et ça n'a plus et c'est plus comme ça qu'on traite l'inflation. On traite l'inflation peut-être par des politiques de la concurrence qui permettent de par d'autres politiques que la politique monétaire.
Je me demande s'il n'y a pas un peu de japonisation dans l'outil antifragmentation que la BCE est en train de préparer parce que ça va revenir d'une certaine
Ils
manière.
Ils ont un mot tout à l'heure, c'est extrêmement important et ça n'a pas été suffisamment analysé.
Alors je ne sais pas si vous voulez réagir, Eric Ayer, à l'histoire du pourquoi parce que ça donne presque envie ce que dit Patrick Artus. Finalement, ils sont très heureux. Ces Japonais, bon, ils vieillissent, ils vendent plus de couches culottes pour adultes que pour enfants, mais ça se passe bien.
Non, mais sur la soutenabilité de la dette.
Et le mot, après, j'aimerais bien qu'on dise un mot quand même de l'histoire de la cote d'alerte.
C'est la cote d'alerte, mais c'est ça. Donc, quel est le bon niveau de dette publique ?
Oui.
Est-ce que c'est le Japonais à 250 ou est-ce que c'était 90, 60 Moi, je pense que. Il y a plusieurs arguments. D'abord, une des différences, mais est-ce qu'on parle de la France et du Japon, c'est que la France est dans la zone euro. Le gros problème, c'est quand vous avez un des gros pays qui est à 70 et puis qu'il y a un autre gros pays donc l'Allemagne et qu'il y a un autre gros pays l'Italie qui est à 115 ou même plus 125 donc c'est ça qui va pas, c'est qu'on devrait avoir une dette qui soit à peu près commune puisqu'on a un seul taux d'intérêt, une seule banque centrale, etc. Donc il y a quand même cette histoire et donc la France au milieu. Mais au-delà de tout cela, on va pas refaire, je pense qu'on l'a fait plusieurs fois sur ce plateau. D'abord, est-ce que ça a un sens, ce dette publique sur PIB? Encore une fois, ça n'a aucun sens pour moi, hein. C'est un stock d'un côté divisé
divisé par un flux, c'est du brut, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas à quoi a servi cette dette publique. Vous voyez, si cette dette publique sert à financer de la consommation et du pouvoir d'achat, bon, c'est pas très bon, hein, d'accord.
Alors, ce qu'on fait là.
Alors, ok, non, mais on reviendra. Ouais, mais si ça sert
à investir l'avenir, bon,
et avoir des actifs, ben, en face de cette dette, vous avez un actif. Donc, vous voyez, le fait qu'on a mis une règle sur la dette brute, vous voyez, quand on privatise la Française des Jeux, on applaudit parce qu'on fait baisser la dette brute, mais on a enlevé des actifs. Enfin, entre nous, pourquoi on regarde cette dette brute? Pourquoi on n'essaie pas d'avoir un raisonnement en dette nette? On sait que c'est plus compliqué, mais regardez que la dette brute, ça n'a pas un grand sens. Vous voyez, moi, il me semble qu'à toutes ces questions, à quoi sert la mondialisation, enfin, est-ce qu'on est pour ou contre la mondialisation, pour ou contre le progrès technique, pour ou contre la dette publique? La réponse est, mais quel est l'objectif de notre politique économique? Et est-ce que la mondialisation nous aide? Est-ce que le progrès technique nous aide? Est-ce que la dette publique nous aide à avoir un objectif? Donc, l'objectif ne doit pas être la dette, le progrès technique ou la mondialisation, mais plutôt, ce sont des instruments au service d'un objectif. Donc, moi, j'aimerais qu'on m'explique quel est l'objectif aujourd'hui, pourquoi on fait de la dette publique. Et bon, voilà, si on soutient, comme vous le dites, de la consommation, bah, peut-être que ce n'est pas que du pouvoir d'achat qu'on essaie d'avoir, c'est peut-être une crise sociale à venir.
Oui, ben voilà.
Tiens, voilà. Alors,
l'objectif, on ne veut plus avoir des ronds-points. L'objectif, on veut avoir du plein emploi. L'objectif, on veut éviter.
Mais d'accord, mais du coup, il faut nous expliquer l'objectif en disant, puisqu'on ne veut pas une crise sociale qui va arriver demain, qui va mettre en péril la croissance, eh bien, allez, on fait un peu de dette. Mais attention, ça doit être financé demain, mais très, très, très tôt. Le dernier point, après, c'est qu'on ne peut pas signaler quel est le bon niveau de dette, d'accord, tant qu'on ne sait pas, d'accord, quelle est l'envie d'avoir de la dette publique, dans le sens pour les investisseurs. Donc, Patrick, lors de la première partie, a dit, bon, cette surépargne, je n'y crois pas, n'y retourne pas dans la consommation. Je suis assez d'accord avec lui. Mais donc, ça ira quand même quelque part. Il y aura une demande, sans doute, pour aller investir dans du sans-risque. Le sans-risque, aujourd'hui, eh ben, c'est de la dette publique. Et donc, peut-être qu'il y aura une énorme demande, demain, puisqu'il y a beaucoup plus d'épargne.
Demain, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas.
D'accord. Bon, d'accord, mais attendez, si, parce que globalement, si quand même, si, et c'est la cote d'alerte. Aujourd'hui, on lève à 2.
Bon, la cote d'alerte, d'accord, c'est le moment où on rend plus notre dette. Non, mais c'est ça, la cote d'alerte, c'est le moment où on rend plus notre dette.
C'est pas parce qu'on est à 2 aujourd'hui qu'on est déjà. On a encore une grosse demande de dette française, puisque globalement, on devrait être à 3 ou à 3,2 aujourd'hui de taux d'intérêt. On est à 2. C'est-à-dire que globalement, il y a plus de demandes que d'offres. Un peu moins vrai qu'il y a un an, mais parce qu'il y a un peu d'inflation. Mais donc, globalement, enfin, moi, il me semble que le vrai juge de paix, c'est quand même ces intérêts en point de PIB que l'on paye chaque année sur la dette. Vous voyez, il y a 20 ans, lorsque le Premier ministre nous disait qu'il était à la tête d'un État en faillite, ben on consacrait 3,5 points de PIB pour rembourser notre dette. Bon, et là, on était limite, on avait 63 de dette. Bon, aujourd'hui, on est à 1,2 de points de PIB. Ben, peut-être que la cote d'alerte, c'est quand on sera à 3,5 de remboursement de notre dette.
La cote d'alerte, c'est ça.
Ben, on est peut-être très loin. Bon. Vous voyez, on est à 1,2 avant qu'on arrive à 3,5.
Donc, la cote d'alerte, c'est si le taux d'intérêt nominal dépasse le taux de croissance nominal. Il est là.
Oui, mais le taux apparent de la dette. Hein.
Oui.
C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un gros paquebot, la dette. Hein. C'est 8 ans et demi.
Oui, de maturité,
et donc,
bien sûr.
Ça bouge tout lentement. Bon. Alors qu'on dise tout de suite, attention, dans 10 ans, il y aura peut-être un problème. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'économistes qui nous disent ça depuis 2008, que les taux vont augmenter.
Mais alors après, est-ce qu'il faut utiliser dans la communication politique ce type de termes, de code d'alerte, de limite du tolérable? Bon,
sans doute.
Sans doute. Ah bon. Sylvain Rémy.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Eric sur la dette et ce qu'on en fait. Effectivement.
C'est des années qu'on le dit.
Non, mais enfin, là, pour le moment, on le fait. C'est-à-dire, quand on baisse les impôts de production, ceux dont vous dites qu'ils ne vont pas baisser en 2023, quand on baisse de 10 milliards les impôts de production, ça produit de l'investissement, ça produit de l'emploi. Et on l'a vu, hein, on ne peut pas dire que c'est une chimère. Ça s'est vraiment produit. On a encore 50 milliards d'écart avec l'Allemagne. Mmh. 50 milliards d'écart de taux d'impôts de production qu'on paye en plus que les Allemands. C'est-à-dire que moi, entreprise française, j'ai 50 milliards sur le dos que n'ont pas les Allemands pour courir le marathon qu'on court côte à côte. Donc, il y a encore 50 milliards de poches là-dedans. Si on dépense 50 milliards, si l'État dit l'année prochaine, allez, je me mets au niveau de l'Allemagne et je lâche 50 milliards, vous allez dire, ah, la dette, 50 milliards de dette, c'est terrible. Mais si cette dette produit de l'investissement des entreprises, c'est 50 milliards, déjà, il y en a un quart qui va revenir en IS à l'État. Hein. Et puis après, les entreprises, elles vont, cet argent qu'elles vont gagner, ces super profits, ils vont servir à investir, ils vont servir à recruter. Donc on va avoir un effet extrêmement positif. Alors je ne dis pas qu'il faut remettre les impôts de production directement demain au niveau de l'Allemagne, mais en fait, pourquoi pas? Ça, c'est de la bonne dette. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est très conjoncturel, encore une fois. Vous dites, on fait des cadeaux, on fait des chèques, mais justement...
J'ai pas parlé de cadeaux.
On fait des chèques parce que...
Ni aux ménages, ni aux entreprises.
On fait des chèques parce qu'on veut pas casser la croissance en augmentant les salaires. L'augmentation de salaire, c'est définitif. On revient pas dessus. Les chèques, c'est vrai, ça coûte un peu. C'est pas très joli, ça fait de la dette, de la mauvaise dette, comme disait Eric. Mais finalement, on se dit que l'année prochaine, ça sera réglé et que on ne payera plus ces chèques et la croissance aura été préservée. Et puis, cette dette, elle sera remboursée par les efforts qu'ont fait les entreprises. D'où l'intérêt pour la politique de l'offre qui doit se poursuivre et qui se poursuivra.
Qu'est-ce que je voulais dire ?
Oh là là !
Excusez-moi,
Nicolas, j'ai peut-être été trop...
Non, mais parce qu'il reste 11... Oui, vous pouvez. Il y a 11 minutes et je voudrais qu'il en reste 40. Donc.
Non, mais sur les deux interventions, je pense qu'on a quand même...
Patrick,
on sait quand même à peu près ce qu'on veut faire. Les économistes n'ont jamais dit qu'il fallait maximiser le PIB. On fait cours de première année d'économie, on explique que ce qu'on maximise, c'est le bien-être et pas le PIB. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui crucialement dans le bien-être ? Il me semble que dans un pays comme la France, il y a deux choses. Il y a d'être capable de faire les investissements de transition. On sait que c'est à peu près 4 points de PIB par an d'investissement dans la transition énergétique. On est à 2, donc il faudrait faire 2 points de PIB, 50 milliards d'euros de plus d'investissement. Malheureusement, ces investissements ont des rentabilités financières assez faibles. Pensez à l'isolation des maisons, pensez à changer la source d'énergie pour la sidérurgie ou le ciment, etc. Et deuxième sujet, c'est le taux d'emploi. On a un taux d'emploi qui est extraordinairement bas par rapport aux pays normaux. On est à 67% de taux d'emploi, on devrait être au moins à 75%.
C'est ça.
Si on avait un taux d'emploi plus élevé, on aurait beaucoup plus de recettes fiscales, on n'aurait pas de problème fiscal, on aurait beaucoup moins d'inégalités, beaucoup moins de pauvreté, il y aurait beaucoup plus de gens qui ont un emploi, quoi. Donc, en gros, si on avait un ratio normal de genre dette sur bien-être et pas dette sur PIB, on accepterait de s'endetter si ça a comme objet de faire les investissements de transition énergétique et si ça a comme objet de remonter le taux d'emploi. Et donc c'est comme ça qu'il faut réfléchir. La difficulté, c'est de rendre conciliable ça avec les marchés financiers. Les marchés financiers, ils vous prêtent en fonction de votre capacité banale à lever de l'impôt pour rembourser la dette. Et les impôts, ils se lèvent sur le PIB, ils se lèvent pas sur le bien-être, quoi, je veux dire. Donc on a cette difficulté là. Donc faut arriver à montrer aux marchés financiers, et on va devoir le faire, qu'il faut accepter une forme de dette qui n'est pas directement liée à de la croissance du PIB, mais qui est liée à de la croissance du bien-être. Et ça va être ça, de faire de la politique économique dans les prochaines années.
On va faire comme le Bhoutan en 72, le bonheur national
brut. Oui, mais on s'est mesuré. Même l'INSEE fabrique des séries de bien-être que personne ne regarde.
Mais les marchés ont déjà pris ça en compte, on voit bien. Sinon, la France ne serait pas où elle est aujourd'hui. Ça fait des années qu'on annonce la faillite de la France. En fait, les marchés, ils la
trouvent très bien pourquoi la dette française est très demandée. Parce que c'est un titre très liquide qui s'échange quotidiennement très facilement. Parce qu'on a 3500 milliards d'euros d'épargne financière liquide. Parce qu'on a la réputation d'être l'un des pays qui lève le mieux l'impôt. Puis on a vaguement la signature allemande et la BCE derrière qui rassure. Voilà.
Oui, mais
c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne fait peut-être pas exactement comme les Japonais, parce que la confiance dans l'euro...
Mais quand on va commencer à faire vraiment des politiques publiques qui ne feront pas de PIB, et c'est vraiment ce qui est devant nous, ça devient compliqué structurellement, quoi, parce que c'est des politiques publiques, même d'investissement, qui ne génèrent pas de recettes fiscales, ou alors il faut être capable de taxer autre chose que le PIB, quoi. Mais ça, c'est pas complètement évident. Donc, donc on va quand même avoir cette difficulté profonde dans les politiques publiques.
Faut-il taxer Total et CMA CGM ?
Ah. Comment c'est le ministre ?
Alors non, parce
Total,
que je veux dire, Bruno Le Maire nous dit on le fera pas, mais Clément Beaune dit oui, on y réfléchit. C'est un peu le brouillard.
Je vais réagir comme économiste, et pas comme ancien administrateur de Total. Les économistes, il me semble, sont assez d'accord pour dire qu'on a le droit de taxer les rentes non justifiées. Si vous gagnez beaucoup d'argent parce que vous avez inventé un vaccin ou un ordinateur quantique, etc., c'est une rente justifiée, au moins pendant quelques années. Si vous gagnez beaucoup d'argent parce que le prix de votre maison a énormément monté grâce à la politique monétaire, regardez ce qui se passe aux États-Unis, les prix de l'immobilier ont monté de 50% en 4 ans. Parce que vous êtes dans une position de monopole, ça c'est tout le débat Thomas Philippon sur ce qui se passe dans les entreprises américaines, ou bien parce qu'il se trouve que pour une raison quelconque, les prix des matières premières ont explosé, le prix du transport maritime a explosé, vous n'y êtes pour rien, mais vous gagnez de l'argent.
CMA-CGM,
le prix du container, voilà. Et donc, première réaction, on a le droit de taxer les rentes qui ne sont pas liées à l'effort. Après, je saute sur toutes les difficultés techniques.
Je vais vous dire, les profits de Total et de CMA-CGM, ce n'est pas lié à l'effort.
Non, en ce moment, non. Alors après, il y a deuxième chose, On peut alléger ma première affirmation en disant, un, si ces profits anormalement élevés sont réinvestis de façon socialement utile, il n'y a rien à dire, quoi.
On est d'accord.
Donc, si CMA-CGM, ce qui est le cas d'ailleurs, achète des bateaux qui marchent maintenant au gaz, qui marcheront plus tard peut-être à l'hydrogène, ou qui vont récupérer le carbone, enfin, il y a plein d'innovations dans le tuyau, et si Total met cet argent dans l'investissement, dans la transition vers le vert, hein, de l'entreprise.
C'est ce que dit Bruno Le Maire ce matin.
Il n'y a rien à dire.
Il n'y
a rien à dire. Donc, en fait, une motion plus molle, c'est de dire on va pas taxer ces surprofits, mais on va avoir un regard public sur leur utilisation, quoi, qui vont dans le bon sens, en termes de transition, en termes social, etc. Et puis, il y a une difficulté après, j'aurais comme évoqué, si ces entreprises multinationales ne font pas leurs profits en France. Et donc, pourquoi est-ce que c'est l'État français qui récupérerait l'impôt sur les surprofits? Pourquoi c'est pas le Nigeria, le Brésil, l'Angola?
Bruno Le Maire dit d'ailleurs, moi je peux pas le faire parce que la Grande-Bretagne l'a déjà fait et qu'il y a un moment, on peut pas payer deux fois.
Mais en plus, légitimement, est-ce que c'est pas plutôt les pays pauvres où se génèrent ces profits qui devraient profiter de la recette fiscale et pas l'État français, quoi, je veux dire.
On est d'accord. Bon, je passe sur l'histoire de...
On pourrait rendre aux entreprises les frais prohibitifs qu'on a payés depuis deux ans. Mmh. C'est une bonne nouvelle, non ?
Hugo m'écrit, tant qu'il y a de la confiance, il n'y a pas de problème avec la dette, me dit-il. C'est pas totalement faux. Parce que c'est vrai que c'est quand le reste du monde n'a plus confiance dans votre souverain que les choses...
Généralement, quand même, quand on perd confiance dans l'économie, au sens large, il y a ce que Keynes appelait le flight to quality. On va vers ce qui est de qualité. Et la dette publique est généralement...
Oui, oui.
Une notion de qualité. C'est-à-dire qu'au contraire, quand on a vraiment une énorme défiance, comme en 2008, globalement, on retire tout des bourses.
Mais on l'a vu, quitte à la prendre un peu négatif.
Pour aller dans
Eric qualité. Pas en Italie.
Pas en Italie, mais ok. Mais en tout cas, souvent la dette publique est vue comme un actif moins risqué
qu'un
certain nombre d'actifs. Et donc, du coup.
Les fonds de pension qui ont la responsabilité de plusieurs millions de retraités aux États-Unis, ils doivent avoir un quantum de dette publique dans leur portefeuille.
Disons qu'on est encore noté par les agences de notation, AA+, etc. Donc, sans risque. Et plus il y a de la défiance, plus finalement il y a une détérioration.
Ça vous dit le SMIC à 1500 euros net, Sylvain Aurébi?
Formidable, vivement.
Le PS, le PS sort la proposition de loi pour ça.
Vous dites ça comme si c'était un truc...
Jamais le PS n'avait dit ça.
Enfin, jamais. Vous écoutez le PS depuis 6 mois ou pas?
Ah oui, c'était pas dans le programme.
Ils en ont dit des bêtises. Ah non, mais le programme, vous savez...
LFI, j'ai vu.
PS, aujourd'hui, kiff-kiff. Hein. Excusez-moi, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon, même combat. Ne me parlez pas de PS aujourd'hui. Valérie Rabault tout à l'heure qui dit sur votre antenne, il faut mettre le SMIC à 1500 euros. Excusez-moi, je préfère qu'elle soit pas présidente de la commission des finances. On peut pas dire des inepties pareilles à un poste de responsabilité. Donc c'est évidemment, d'abord, le SMIC à 1500 euros, c'est certainement la faillite de nombreuses entreprises. Et en plus, c'est un coup fatal à la croissance française, à l'économie française. Donc on ne peut pas, quand on est responsable, dire un truc pareil. Voilà, c'est tout. Donc, alors, ne me parlez pas de PS comme si c'était le PS.
Non, mais j'étais surpris que le PS porte cette idée.
Ne soyez plus surpris
que ça vienne, si vous voulez.
Mais ne soyez plus surpris. Le PS a été infiltré par LFI. Mais non, mais c'est pas une blague. Ils ont repris toutes les idées de Jean-Luc Mélenchon. Excusez-moi, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il n'y a plus de le PS d'avant n'existe plus. Il n'existe plus.
Mais peut-être là-dessus,
Eric Ayers. Pas trop long parce que je.
Mais globalement, est-ce que c'est 1500 euros dès l'année prochaine ou est-ce que c'est à l'horizon de la fin du quinquennat? Mais voyez que avec ces niveaux d'inflation et qui vont rester assez élevés, j'ai pas fait le calcul, mais on va vite y arriver aux 1500 euros.
Donc là, ils veulent
globalement. Quel est le vrai coup de pouce? C'est le coup de pouce qu'il faudrait qu'ils nous indiquent. C'est de combien on devrait augmenter le SMIC plus que l'inflation.
Là, Eric, je comprends qu'ils veulent une loi maintenant pour l'avoir maintenant à 1500.
Oui, attendez, enfin bon. Moi, c'est ça la vraie question. C'est combien de coups de pouce on veut et après, on fait le calcul. On fait le calcul, voilà. Alors après, on va demander à Gilbert Sept de nous calculer combien ça va détruire de l'emploi.
Il a dit qu'il partait si on lui mettait à 1500.
Avec son coup de pouce. Oui, enfin, ouais, quand vous questionnez Bercy est beaucoup moins hostile que vous, Sylvain, en disant bon, il faut réfléchir parce que globalement, on va peut-être y être assez rapidement, de façon
complètement automatique. Par les mécanismes d'indexation.
Mais
c'est pas la même chose.
Mais justement, c'est expliquer, est-ce que c'est bien un coup de pouce ou est-ce qu'on attend et finalement, vous voyez, peut-être que dans 3 ans, on sera à 1500 euros.
Il est possible. C'est la Banque de France qui nous a dit qu'un 7% d'inflation en septembre était possible.
On va aller très vite. On va réaugmenter le SMIC en août ou en septembre. Enfin, petit à petit. Donc voilà, faisons vraiment ce calcul.
Dès qu'on est à plus de 2 points de hausse d'inflation par rapport à la précédente hausse de SMIC, on a une indexation mécanique. Donc, c'est pas la même chose. Là, c'est...
Nicolas, oui, je prends 10 secondes, mais il faut quand même qu'on ait un débat dans ce pays serein aussi sur, on veut augmenter les plus bas salaires, les plus bas revenus.
Oui.
Parce que, entre l'alimentation, l'énergie et le logement, il y a plein de Français qui n'y arrivent pas.
C'est clair.
Et donc, comment fait-on ? Est-ce qu'on continue la stratégie qu'on a depuis quelques années, qui est de ne pas toucher au SMIC, hein, de juste de l'indexer sur les prix et de pousser les aides de l'État, hein, donc des chèques, l'augmentation de la prime d'activité, etc. Donc est-ce qu'on continue à faire porter par le budget le soutien des bas revenus, ou est-ce qu'on regarde quand même si on ne peut pas faire quelque chose sur les salaires, quoi, je veux dire.
Ce que dit Sylvain,
et alors désolé, peut-être de façon plus décentralisée et plus discriminante suivant les entreprises que le SMIC, mais voilà, ce qui est la, il me semble la position de Bruno Le Maire, de dire il y a des entreprises qui peuvent le faire, il y en a qui ne peuvent pas le faire, au moins celles qui peuvent le faire le fassent. Et alors, dans la littérature de recherche, il y a un truc assez amusant, parce qu'on dit si on fait ça, c'est-à-dire si on laisse monter les plus bas salaires dans les entreprises qui peuvent le faire, c'est un effet très positif, c'est que ça pousse les salariés à aller dans ces entreprises, qui sont des entreprises qui vont mieux et qui sont plus productives que les autres, donc ça déclenche un gros effet schumpeterien dans l'économie par l'attraction des entreprises qui payent mieux. C'est peut-être un truc à regarder.
Bien sûr, salaire d'efficience.
On a 1 minute 20. Je voudrais vous lancer sur l'antifragmentation. Alors, en 1 minute 20, c'est une gageure. Non, bah là, on va faire autre chose pour terminer. Juste, Eric, quand vous voyez que les 18 centimes par litre pour tous, on les garde 5 mois de plus, est-ce que là, on n'est pas en train de faire fausse route quand même? Parce qu'on veut envoyer du lest à l'opposition pour éviter de se prendre le mur parlementaire lors du premier texte, quoi.
Non, mais ça revient un peu le débat sur les profits des grands groupes. Vous voyez, avec le quoi qu'il en coûte, ces grands groupes, non seulement ont fait des surprofits, mais en plus ont reçu des aides parce qu'on ne voulait pas trier entre les bonnes et les mauvaises. Donc on a dit, on a donné à des entreprises zombies, mais on a aussi donné à des entreprises qui se portaient bien. D'accord. Voilà. Là, on fait un peu pareil. C'est-à-dire que, on veut aller très vite, on ne veut pas tellement trier, et donc on met 18 centimes à tout le monde. C'est pour ça que moi, globalement, je suis pour l'augmentation des impôts, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on dit,
quels impôts?
Parce que, globalement, vous ne pouvez pas trier. Vous ne pouvez pas trier.
Donc vous donnez,
vous dites à CGA, on vous a donné des aides, vous n'avez pas besoin, vous avez fait des surprofits, on vous les reprend, mais en gros, quand vous regardez le net, ça fait zéro. Et pareil, si on donne 18 centimes à tout le monde, y compris aux riches, pourquoi ne pas réfléchir à une augmentation d'impôts ponctuelle, tant que cette mesure est là, pour dire, tu as bénéficié de cette aide, mais on te la revend, parce qu'en fait, en gros, c'était trop compliqué de cibler à la pompe à essence, on le cible en fonction de la fiscalité. Donc il faut juste expliquer pourquoi il y a des impôts qui peuvent augmenter transitoirement, pour compenser des aides qui seront aussi transitoires.
Promis, je vous garde l'outil antifragmentation au chaud, Patrick, pour la prochaine fois.
C'est très important.
Oui, mais c'est très important. Mais là, on peut pas le traiter vulgairement en 1 minute. C'est fini, me dit-on. C'était aujourd'hui Patrick Artus, Eric Ayer et Sylvain Auribi. On se retrouve demain à 9h.